Vous écoutez le 24e épisode des balados de Baron Mag. Mon nom est Nelson Roberge et à partir de cet épisode, j'ai décidé de changer le nom du balado pour Réflexion et entrepreneuriat. C'est dur de trouver un nom qui va bien partager son essence et son contenu. Des fois, le plus simple est le mieux. Donc, le nouveau nom du balado est exactement ce que c'est. Vous savez, j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs extraordinaires. Et mon objectif avec cette série est vraiment de favoriser la réflexion entrepreneuriale à travers une approche plus humaine et plus éthique. Donc, le contenu ne change pas, c'est juste son image et son identité qui va rayonner, qui change. Avant de commencer, on est en début septembre présentement et il vous reste que 30 jours pour vous inscrire gratuitement sur baronmag.com. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vous allez devoir débourser pour accéder au contenu. Qu'est-ce que ça vous donne de plus que le contenu? Ben, d'être membre de Baron Mag, ça vous donne accès à plus d'une dizaine de rabais d'entreprises locales différentes à chaque mois. Vous avez aussi le privilège d'assister gratuitement à certains webinaires ou avoir des accès à certains contenus ou peut-être même des privilèges avec des événements à venir. Et pouvoir aussi essayer les nouveaux produits qui vont être lancés par Baron. Donc, dépêchez-vous d'aller vous abonner. Comme je vous disais, il reste 30 jours pour un abonnement gratuit d'un an. Dans cet épisode, je m'entretiens avec un habitué de la place qui est Christian Wirth, qui est formateur en intelligence collective. Notre discussion va parler principalement de son terrain de jeu, donc l'intelligence collective, et il va nous expliquer la différence entre la réflexion et l'intelligence collective, en expliquant le concept à travers différentes situations. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour Christian.
Bonjour Nelson, ça va bien?
Oui, c'est tout le temps un plaisir de t'avoir. Toi, tu es un passionné d'intelligence collective. Pour donner les grandes lignes, c'est quoi exactement l'intelligence collective?
Alors moi, comment je me plais à la définir, c'est la capacité d'un groupe à pouvoir générer des idées nouvelles qu'on n'aurait pas pu générer tout seul.
À ce moment-là, dans le sujet que tu voulais apporter, réflexion collective versus intelligence collective, donc... La réflexion collective, elle est quoi? Est-ce que les gens confondent beaucoup les deux?
Oui, je pense que beaucoup de gens confondent intelligence collective et réflexion collective. Je pense même que beaucoup de gens, finalement, maîtrisent mal c'est quoi l'intelligence collective. Donc la réflexion collective, pour commencer par rapport à ça, c'est quand un groupe se réunit pour échanger des informations, élaborer sur des informations, éventuellement créer sur des informations. Mais on est sur un échange qui est plutôt simple sur des éléments qui sont peu complexes en général.
Donc, comme tous les meetings ou toutes les rencontres, la plupart du temps, ou presque, c'est on se rencontre, on discute, on échange, réflexion collective.
C'est exactement ça. Okay, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un groupe qui parlons ensemble qu'on fait de l'intelligence collective. Okay. Loin de là même.
Okay, c'est bon.
Très loin de là. Par contre, on fait de la réflexion collective et c'est super correct, c'est nécessaire. Et ça, c'est une des composantes qui va faire qu'on s'en va probablement vers de l'intelligence collective. Mm-hmm. L'intelligence collective, c'est un espèce de climat qui va se créer sous certaines conditions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réflexion collective peut être très spontanée sur le fait qu'on va échanger sur des sujets, on va aller à la recherche d'informations, on va les regrouper, puis on va les travailler. Au niveau de l'intelligence collective, il n'y a rien de spontané. Il n'y a rien de spontané du tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les conditions nécessaires pour faire émerger cette intelligence collective, il n'y en aura pas. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'intelligence collective n'a rien de simplement intellectuel. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait des études sur le fait que des personnes avec un faible quotient intellectuel pouvaient générer en groupe des groupes avec une plus forte quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à solutionner des problématiques qui étaient plus complexes. Mmh. Donc pour moi, l'intelligence collective, elle est nécessaire quand on est dans une situation complexe, en fait, dans un enjeu qui commence à prendre des parties prenantes ou qui a une dimension aussi qui est très grande, par exemple, c'est-à-dire l'ampleur d'une problématique dans une entreprise, c'est-à-dire qui va toucher l'ensemble de l'organisation, qui va faire en sorte que moi, dans mon coin, je n'ai pas accès à l'information des autres. Donc c'est ça. Donc l'intelligence collective n'est pas une fin en soi, mais elle peut être nécessaire pour résoudre un certain type de problématique ou de besoin de créativité, c'est quand les choses vont être complexes. Puis c'est ça, comme je disais, du coup, ça prend c'est pas que intellectuel, c'est aussi très émotionnel, l'intelligence collective, c'est très physique aussi. Donc, si je ne suis pas bien dans mon corps, si je ne suis pas bien émotionnellement, il y a peu de chances que je favorise un contexte d'intelligence collective. Au niveau des conditions, on va avoir, par exemple, tout simplement l'envie de créer un « nous ». Est-ce qu'il y a un « nous » ? Est-ce qu'il y a un collectif ? Est-ce qu'il y a un groupe qui existe présentement ? Ou est-ce que c'est des gens qui n'ont pas du tout envie d'être là et qui se forcent à être là ? Ça, déjà, ça va créer un contexte où ma capacité à participer, à contribuer et à faire émerger cette intelligence collective va dépendre de ça. Déjà. Si je n'ai pas envie d'être là, il y a peu de chances que je sois coopératif ou collaboratif et que je favorise cette intelligence collective. C'est ça. Après, par exemple, aussi, ce qu'on s'est rendu compte dans certaines études, qui d'ailleurs, à un moment donné, a été pas mal partagée sur les réseaux sociaux, c'est une étude du MIT puis d'une autre école qui se sont rendu compte que la présence féminine, ou en tout cas le niveau de sensibilité sociale, était nécessaire à l'émergence de l'intelligence collective. Donc, par exemple, des groupes d'hommes avec un QI tout à fait raisonnable, par exemple autour de 120, étaient capables de générer des groupes avec un QI inférieur à, à la somme qui était présente. Par contre, quand il y a la présence d'une femme, donc, qui détermine autour de la sensibilité sociale, donc de l'empathie, de l'écoute et tout ça, ben là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il émerge quelque chose de ça qu'ils appellent le facteur C. Et donc la sensibilité sociale est un des éléments extrêmement importants qui doit faire partie des conditions de l'intelligence collective. Donc cette ouverture d'esprit.
Donc l'intelligence collective doit mélanger tout, tous les gens, tous les genres et tout le monde. Complètement. Parce que c'est comme ça que ça avance. Est-ce que ça s'adapte à tout, même gouvernemental, ou tu sais, ça pourrait-tu être...
Bah, définitivement. En fait, il y a énormément de groupes qui travaillent sur des façons de vivre et de penser une société différemment et basées sur cette intelligence collective. Cette intelligence collective, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est qu'elle va générer et chercher la démocratie. Donc, la participation, le sentiment d'appartenance, une vision commune aussi. Donc, il y a... oui, elle peut se répliquer... D'autant plus, en fait, plus ça devient complexe et plus c'est important de faire appel à l'intelligence collective. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que des fois, quand j'entends qu'on a des comment on appelle ça, des présidents ou des premiers ministres, oui. Mais qui ont des postes de... c'est plus des représentants d'État, en fait, c'est des chefs d'État. Des chefs d'État qui prennent des décisions. Pour moi, c'est du non-sens. C'est du non-sens parce que comment une seule personne peut envisager de prendre des décisions pour l'ensemble d'une population. Pour moi, ça devrait être des représentants d'État, à la limite, et qui aient un pouvoir spécifique, mais un pouvoir distribué, où on va chercher l'ensemble de la population pour résoudre des enjeux, ou en tout cas pour solutionner des problématiques. Il y en a qui proposent ça, justement, la démocratie participative. On s'en va vers ce genre de méthodologie, en fait, en tout cas ce genre de philosophie de pensée, où les gens vont pouvoir voter d'une certaine façon, essayer de tenir compte d'un plus large spectre que la majorité. Donc le fameux 51%. Le crime, 51% d'adhérés, ça veut dire 49% non adhérés. Comment tu fais avancer la machine quand il y a 49% qui ne sont pas d'accord, qui sont tellement pas d'accord qu'ils vont peut-être même freiner la machine. Ça débalance bien les choses. Donc oui, ça, on peut le voir de partout. Moi, je pense qu'en fait, tout simplement, en fait, je crois que c'est Jean-François Noubel qui dit que les enjeux de société à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas l'environnement, c'est pas l'économie, c'est pas tous ces enjeux-là. Notre enjeu à l'heure d'aujourd'hui, c'est de générer des groupes capables de résoudre ces enjeux, capables de faire émerger cette intelligence collective qu'on a besoin pour résoudre les enjeux actuels. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, c'est multidimensionnel dans le fond.
Oui, oui. Tu sais, puis je te parlais à quel genre de groupe ça peut s'adapter. Je le vois facilement pour des coopératives ou des OBNL, ou est-ce que c'est des groupes qui essaient de faire avancer les choses ensemble. Mais quand c'est une entreprise, ou est-ce que justement, là, tu parlais du premier ministre ou du chef d'État, les entreprises sont comme ça aussi. Il y a le décideur, le grand patron, avec le monde autour de lui qui l'aide, qui consulte pour savoir c'est quoi les meilleures décisions. Mais est-ce que les dirigeants d'entreprise doivent être plus ouverts à écouter leur équipe, ou comment quelqu'un qui doit prendre quand même une décision de son entreprise adhère à l'intelligence collective, tandis que, tu sais, La plupart des patrons qui sont là depuis toujours, ils ont réussi à créer cette entreprise-là. Ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître la formule magique. Comment amener ces gens-là ou amener cette façon de travailler-là pour le bien-être ou pour le bien-être de son entreprise, je sais pas.
Ouais, ben en fait, moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a différents types de décisions. C'est un peu ce qu'on se disait tantôt. À partir du moment où c'est compliqué, puis je peux résoudre ça tout seul, j'ai peut-être pas besoin de prendre du temps pour l'exposer à tout le monde, puis le solutionner avec l'ensemble du collectif. Par contre, quand ça va avoir un impact sur la collectivité, sur l'organisation et tout ça, et que peut-être je manque d'informations, parce que des fois, on a un feeling, puis les chefs d'entreprise, leur force, par exemple, souvent, c'est qu'ils vont être intuitifs, ils vont être visionnaires et tout ça. Ouais. Donc ça, c'est leur force. Et effectivement, je pense qu'il y a une façon de l'accueillir et de le vivre aussi qui permette de favoriser tout simplement la pérennité de l'entreprise, l'adhésion de l'ensemble des membres, en fait, de l'ensemble des personnes qui constituent l'organisation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, selon moi, si tu as envie de faire en sorte que ton entreprise dure longtemps, puis qu'elle ait du sens dans la société, parce que techniquement, on monte une entreprise pour aider la société, pour résoudre un problème, ou répondre à un besoin, je pense que tu as envie de faire en sorte que le monde vienne t'aider. Même si c'est dans un contexte pyramidal, tu as probablement envie que les gens viennent t'aider à résoudre ça. Mmh. Donc, effectivement, d'aller chercher cette adhésion, d'aller chercher les compétences des gens, leurs réflexions et tout ça, c'est un super moyen pour faire en sorte que les gens aient envie de rester avec toi à résoudre l'objectif, à participer à ta mission, en fait. Mais après, effectivement, si ton objectif premier est juste de faire de l'argent et tout ça, tu vas mettre des stratégies qui vont favoriser ça.
Oui, oui, oui. Ça dépend de ton plan, ça dépend de ta stratégie. Ça me fait penser, c'est un peu la base de la croissance puis de la vision, d'avoir une vision pour un entrepreneur, d'avoir une vision sur le long terme d'une entreprise, c'est d'être entouré de gens connaissent leur domaine et qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions en bout de ligne. Sauf que ça doit aller au-delà de ça. C'est pas juste de t'aider à prendre les meilleures décisions, mais de déléguer directement peut-être à un groupe de personnes une décision plutôt que de
C'est ça, c'est de distribuer le pouvoir en fait. C'est-à-dire que peut-être que moi, mon rôle en tant que chef d'entreprise, admettons dans un contexte un peu plus pyramidal, c'est peut-être pas de faire la comptabilité ou de dire comment la comptabilité doit être faite ou comment la chaîne de manufacture doit être mise en place. Peut-être que mon rôle, moi, c'est justement de faire en sorte de mobiliser et de faire que des gens adhèrent à notre philosophie et à notre mission, c'est-à-dire des clients, c'est-à-dire peut-être des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui vont faire partie de l'organisme. Peut-être que c'est de continuer à nourrir cette vision-là, c'est-à-dire de filer quelles sont les prochaines étapes de l'entreprise au travers de la mission et de la vision. Moi, je pense que de toute façon, ce qui est hyper important, si on veut se baser avec une vision, c'est de faire en sorte d'essayer de créer une vision commune pour rassembler le monde. Après, il me semble qu'il y a des auteurs, puis je ne dirais pas non pour éviter de mettre du trouble si je fais une erreur, mais il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas nécessairement besoin de vision, mais qu'on peut être aussi une entreprise qui sache saisir les opportunités. Mais ça, je pense que ça prend un niveau de maturité et d'agilité assez importante. Donc, pas toutes les entreprises sont prêtes à ça. Mais déjà, d'avoir une vision commune où chacun sait où est-ce qu'on s'en va. Puis si je sais que l'ensemble... Parce que moi, par exemple, une des craintes que certains potentiels clients peuvent avoir, pas mes clients parce qu'eux, ils passent à l'acte en général, mais mes potentiels clients, certaines craintes qu'ils ont, c'est « Oui, mais moi, si je discute de la vision avec l'ensemble de mon entreprise, je n'ai pas envie que ce ne soit pas la vision que j'avais à la base, au départ. » Mais en même temps, généralement, les gens ne sont pas venus parce que tu avais une vision qui est aux antipodes de tes choses, à moins qu'ils soient dans une situation de survie, qu'ils ont besoin d'argent. C'est rare que j'ai jamais vu ça, que quand un collectif travaille une vision, et puis une vision commune, que la vision de départ est aux antipodes de la vision du porteur de projet ou de la porteuse de projet. Ce que je vois par contre, c'est les gens et mes clients me disent, jamais j'aurais osé avoir une telle vision avec mon entreprise. Et c'est ça qui est énorme. C'est parce que c'est là où il y a de l'intelligence collective. C'est que d'un seul coup, un ensemble de personnes se sentent le pouvoir d'agir ensemble. Ils voient les compétences, ils voient le potentiel et les opportunités. Et bim, là, une vision devient hyper intéressante. Et moi, si je m'inscris dedans et que je sais que dans 5 ans, je veux faire telle et telle chose dans cette entreprise, ben, d'un seul coup, j'ai des raisons de me mobiliser pour ce projet et pour cette mission. Donc, de prendre ce temps-là, c'est, selon moi, c'est nécessaire, surtout à l'heure d'aujourd'hui, pour la pérennité d'une entreprise.
Merci beaucoup, Christian. C'était très intéressant, comme toujours. Puis, ben, on va continuer à chercher un peu là-dessus. Tu fais des podcasts, toi aussi.
Oui.
Et tu continues... en ce moment, tu en sors à quelle fréquence, à peu près?
Alors, ça dépend, en fait. Il y a des périodes... j'essaie d'en sortir techniquement mensuellement, mais il y a des périodes plus creuses que d'autres parce que, bah, du coup, je suis très occupé et que c'est moi qui fais tout. mais c'est ça. Mais là, déjà, il y en a quand même une bonne dizaine. Donc, si vous voulez en écouter un par mois, bah, vous en avez pour une année. En plus, j'ai différentes versions. Donc, c'est ça. Oui, je fais des podcasts où j'interview des personnes qui, selon moi, contribuent à alimenter des aspects qui vont favoriser un contexte collaboratif et d'intelligence collective dans le milieu de travail ou dans les milieux de collectif.
OK. Ben, on va écouter ça avec plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous encore.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Dans le prochain épisode, on va parler de la relation client et de l'importance d'établir des ententes écrites et comment les faire. Ce balado est une production de Baromag. Il est réalisé et animé par moi-même, Nelson Roberge. La musique thème est une création de l'artiste Zona Z. Le balado Baromag est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et SoundCloud. Donc, vous pouvez vous abonner. Sur ce, portez-vous bien d'ici le prochain épisode et écrivez-moi vos commentaires à nelson@baromag.com. À bientôt!